Les échos de vacarme. Travailler, comment on s'arrête ? Marc Hughes, Véronique Marty.
Bonjour, ici Mireille Grosjean au Brenet, à la retraite depuis 2008, veuve depuis 2006, quand j'enseignais à des adolescents, avec un grand plaisir d'ailleurs, jusqu'à la dernière minute. Quand j'enseignais, je n'avais pas une minute. Maintenant, à la retraite, je n'ai pas une seconde. Alors, je ne sais pas si le grand trou va encore se pointer dans mon avenir. Jusqu'à maintenant, il n'est pas là. Et puis, je voyage énormément. Et puis, je jouis de cette retraite qui est en allemand « Ruhestand ». Mais chez moi, c'est « Unruhestand ».
Lorsque le travail ne fait plus plaisir et qu'on a la chance de pouvoir prendre une retraite anticipée, c'est un vrai bonheur. Et aussi une vraie chance. Malheureusement, ce choix est réservé à très peu.
Je pense que l'âge de la retraite ne devrait pas être reculé. Pour les femmes, il faut vraiment un peu plus de temps pour se reposer après une vie très difficile.
Travailler jusqu'à 65 ans n'est pas forcément un problème pour toutes les femmes. Cependant, j'aimerais quand même dire qu'à partir de 55 ans, pour les femmes comme pour les hommes, il n'y a pas de différence. Quand on se retrouve sur le marché du travail, il est quelque peu difficile de recommencer à travailler. Donc la problématique, ce n'est pas de travailler jusqu'à 65, c'est que le patronat, en règle générale, veuille bien considérer les quinquas et sexa comme des collaborateurs encore intéressants.
Une retraite pour tous à 65 ans. Quant au financement, il serait temps que l'on parle de ceux et celles qui n'ont jamais pu la toucher, car ils sont décédés avant l'âge de 65 ans, mais qui ont cotisé une grande partie de leur vie. De cet argent-là, nos politiciens sont plutôt muets.
Je me reconnais parfaitement avec M. Étienne Fernagu, parce que jusqu'au dernier jour, j'ai aimé mon travail, c'était vraiment super. Et je fais aussi beaucoup de montagne, je sors beaucoup, je lis, je fais du bonheur, voilà, en gardant mes petits-enfants, ainsi que je reste un peu jeune avec eux. La seule chose qui m'a manqué, c'est les contacts, comme j'ai beaucoup été à l'étranger. Avec l'étranger, on communiquait à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais par des télégrammes, ou bien quand j'allais dans leur... pays, on se voyait, là c'était une coupure. Mais autrement, alors la retraite, sans problème.
Bonjour à tous. Travailler, comment on s'arrête? Eh bien, ça vous a fait réagir toute cette semaine à l'issue des reportages de Muriel Mera diffusés dans Vacarme de 13h à 13h30. Une réflexion sur la retraite ou plutôt sur ce qui se passe quand on arrête de travailler. Le travail, vous l'avez constaté, était au cœur de bon nombre d'émissions de la RTS, radio, télévision, réseaux sociaux et web depuis lundi dernier. Et le travail, eh bien, quand on part en retraite, on le regarde autrement, on le comprend autrement et on interprète de façon nouvelle la place enthousiasmante ou délétère, en tout cas jamais anodine, qu'il prenait dans nos vies. Parler de la retraite pour parler de notre rapport au travail, c'est ce que nous allons faire encore ce matin jusqu'à 10h avec Valérie-Anne Rieser. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences sociales, affiliée au Centre de compétences suisses en sciences sociales, hébergé par l'Université de Lausanne. Et vous êtes co-auteur d'une étude intitulée « Bien-être subjectif, l'impact du départ à la retraite en Suisse ». Sur quelles données cette étude ?
Alors, cette étude, elle se base sur les données de l'enquête Vivre en Suisse. Donc, c'est une enquête où on suit, depuis maintenant près de 15 ans, un nombre de ménages représentatifs de la population suisse. Et donc, c'est une enquête qui nous permet de sélectionner tous les individus qui ont vécu leur transition à la retraite. Et donc, on peut voir un petit peu quelles sont les trajectoires de ces personnes.
Sur la retraite, étonnant, vous êtes toute jeune, vous êtes bien loin de la retraite. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous passionnait dans ce sujet ?
On entend beaucoup de choses négatives sur les personnes âgées. Et puis moi, j'ai toujours eu des très bons contacts avec mes grands-parents. Et je me suis toujours posé la question, mais d'où venaient finalement ces stéréotypes négatifs? Je comprenais pas. Je trouvais que j'avais des grands-parents qui étaient actifs, qui étaient sympas, qui étaient engagés dans la vie. Et donc, du coup, j'ai voulu un peu interroger ces stéréotypes négatifs liés à l'âge. Et
même s'ils ne travaillaient plus, ils existaient toujours.
Exactement.
Nous allons en parler ensemble, Valérie Andrisa. Michel Guillemin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de l'Université de Lausanne, spécialiste de la santé au travail, auteur de ce livre « Les dimensions insoupçonnées de la santé au travail ». C'était à l'Harmattan en 2011. Vous êtes, vous, à la retraite aujourd'hui?
Absolument.
Depuis combien de temps?
Ouais, depuis à peu près 6 ans.
Depuis 6 ans, bon, ça n'empêche que vous continuez de vous intéresser à la santé au travail. Mais est-ce que la retraite a fait évoluer votre propre regard sur le monde du travail?
C'est intéressant parce que ce que vous avez dit dans l'introduction, moi je suis pas 100% d'accord dans la mesure où moi j'ai pas changé de regard sur mon travail. C'est pas parce que j'étais à la retraite que mon travail avait une autre signification. Et je pense que c'est parce que j'y avais pensé avant. En plus, j'avais un boulot qui s'occupait du travail, donc ça aide aussi.
Vous nagez dedans, on va dire.
Mais je pense que les gens qui font une réflexion sur leur travail, pourquoi ils travaillent, quelles sont les valeurs, etc., ils sont beaucoup plus prêts à amorcer cette partie où ils seront plus des travailleurs, mais ils vont continuer à travailler même si ça sera plus des salariés.
Vous avez réfléchi au travail avant de le quitter, ça vous a aidé à prendre votre retraite?
Oui, parce que plusieurs années avant, je me suis dit, mais je fais quoi après? Et puis comme j'ai tellement aimé mon métier que j'avais pas envie de l'arrêter, donc maintenant je le continue, mais sous un angle moins scientifique qu'avant, mais plus, on va dire, moral, philosophique, éthique.
Vous allez nous en parler, Michel Guillemin. Mais là, tout de suite, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un reportage de Muriel Mera sur la place que prend le travail dans nos vies, la difficulté de s'en passer. Un Suisse sur trois vit un passage difficile au moment de partir à la retraite. Ça peut même aller jusqu'à la dépression grave. Et on va entendre le témoignage d'une femme pour qui tout avait pourtant bien commencé. Mais aujourd'hui, elle est suivie par le CAPA, c'est le Centre Ambulatoire de Psychiatrie et de Psychothérapie de l'AG, unité des hôpitaux universitaires Genevois. On la retrouve en pleine consultation avec la doctoresse Dragana Favre.
Au début de la retraite, la vie était belle. L'année dernière encore, j'allais pendant tout l'été à la piscine de 9h du matin à 1h de l'après-midi. J'avais pas de chien. J'allais faire des balades dans le Jura. J'aime beaucoup marcher. J'allais de temps en temps à Paris parce que je suis d'origine parisienne. Et puis aussi, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis allée en Asie centrale, en Ouzbékistan. J'ai fait beaucoup de voyages. Et puis tout d'un coup, boum, plus rien. Un matin, je me suis réveillée avec un cafard pas possible et une anxiété surtout, une anxiété. Et je sais pas pourquoi, parce que ça allait très bien. La veille, ça allait très bien. Jusqu'à la veille, ça allait très bien. Et tout soudain, je me suis réveillée avec une anxiété épouvantable, un mal de ventre épouvantable. Le plus terrible, c'est que cela m'est tombé sur la tête sans prévenir. Mmh. Un matin, boum. Je dois avouer que j'ai regardé 2-3 fois en bas le balcon. Mais j'aurais pas le courage. Je l'aurais jamais fait. Mais j'y ai pensé parce que j'ai des amis qui l'ont fait. Et je suis au 4e étage. Alors je suis pas sûre de mourir. Je serai en petits morceaux tout à l'heure. Mais j'ai quand même regardé en bas le balcon.
Notre projet ici avec vous, c'est exactement de continuer ce qu'on a commencé. Mmh. Donc on a 2 choses. D'abord, diminuer l'angoisse, de la un peu apprivoiser, de voir pourquoi elle est arrivée, pourquoi elle doit arriver exactement maintenant. Est-ce qu'elle a un lien avec ce changement de votre style de vie,
oui,
un peu cette transition?
Oui, ça j'en suis sûre. Mmh. Oui, du jour au lendemain, je passe de 300 personnes à moi toute seule. Ça fait beaucoup, j'avais 300 personnes à la banque.
Mmh. Donc vous vous occupiez?
Oui.
Et maintenant, vous avez votre meilleure copine, votre angoisse. Il faut maintenant s'occuper d'elle. Elle a bien apprivoisé que ce n'est pas elle qui mène votre vie, mais qu'elle vous suit.
Mais comment l'apprivoiser? Enfin, je suis ici, c'est pour ça.
Vous êtes ici pour ça, exactement ça. Oui. C'est l'idée d'un peu retrouver l'autonomie, le cercle social autour de vous, mais aussi d'être ensemble avec vous, toute seule, ce que vous n'avez pas fait.
Oui,
ce qu'on a fait, pas juste vous, c'est tout le monde, on ne fait pas ça. On travaille, on oublie quelquefois se poser des questions. Ouais. Quel genre de questions?
La question est exactement le sens. Qu'est-ce que sont nos désirs, nos envies? Qu'est-ce qu'on veut faire, se préparer?
Et j'ai jamais pensé au futur. J'ai dit, oh, ça va aller très bien. J'ai trois sous, je vais voyager. Je l'ai fait. Et puis après, boum.
Voilà, témoignage au micro de Muriel Mera d'une femme qui vit un épisode dépressif après son départ à la retraite. Un épisode qui n'arrive pas tout de suite au moment de la retraite. C'est ce que vous appelez, Valérie Anne Rizer, dans votre étude, la lune de miel ou la fin de la lune de miel. On va appeler ça comme ça. Est-ce que c'est fréquent? J'ai dit un Suisse sur trois vit un épisode dépressif au moment de son départ à la retraite. Je le disais en introduction de ce reportage. Est-ce que vous confirmez cette proportion?
Alors effectivement, les chiffres qu'on peut retrouver sont de l'ordre de à peu près 26% des personnes âgées présenteraient des symptômes dépressifs. On a même 2,6% des personnes âgées qui présenteraient un épisode dépressif vraiment majeur, donc quelque chose vraiment grave comme le témoignage de madame où elle disait que des idées suicidaires finalement l'avaient traversée. Donc c'est quelque chose qui est relativement fréquent dans la vieillesse, qui peut être consécutif justement à la retraite parce que on voit que les gens arrivent à la retraite avec plein d'idéal en se disant voilà, j'ai beaucoup de temps. Madame soulignait qu'elle avait beaucoup voyagé, qu'elle avait rencontré des gens, qu'elle avait fait de la marche, donc plein d'activités qu'elle appréciait. Mais finalement, se représenter la retraite comme des grandes vacances qui se termine jamais. Il arrive un moment donné où il y a un grand vide qui va apparaître. Et effectivement, dans notre étude, on a pu vraiment mettre en évidence un espèce de rebond au niveau du bien-être. Les gens présentent un bien-être assez élevé après la retraite. Et tout à coup, il y a un creux. Et il y a un creux, pourquoi? Parce que finalement, le travail, comme le disait madame, ça structure l'existence, ça amène une routine. On se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. Il y a un sentiment aussi d'utilité, c'est valorisant. C'est très valorisant. Madame disait, voilà, je travaille avec 300 personnes, donc elle avait aussi un réseau social autour d'elle, des collègues, responsabilités. Et donc, toutes ces compétences qu'elle avait développées durant son emploi, et tout à coup, tout ça, comment est-ce que je me le restructure au moment de l'arrivée à la retraite? Et la retraite, peut amener à ce type de sentiment de vide.
C'est vrai que quand on travaille et qu'on prend des vacances, on est très heureux, mais les vacances, ça se termine. Or, que quand on prend sa retraite et qu'on les envisage comme des vacances, c'est des vacances qui ne se terminent jamais.
Voilà.
Et peut-être qu'il faudrait les faire s'arrêter par quelque chose d'autre que l'on restructure, si je vous entends bien, Valérie Anne Rizer.
Oui. Donc, à quelque part, c'est un petit peu l'idée qu'il faudrait arriver à faire un peu le deuil des anciens rôles professionnels pour finalement se retourner vers des rôles alternatifs, des rôles de remplacement qui sont valorisés. Par exemple, se lancer dans des activités de bénévolat, participer à une fondation ou à des activités qui nous font plaisir, qui sont valorisantes pour nous et qui nous permettent finalement de donner un sens et de retrouver en fait un sentiment d'utilité par rapport à la société. Et finalement, c'est aussi valorisant parce que non seulement on a des activités qui sont bénévoles, qui sont alors à ce moment-là des activités bénévoles non marchandes, mais elles vont être bénéfiques à la société et vont contribuer finalement, quelque part, à une espèce de meilleur bien-être de la collectivité. Donc finalement, c'est en fait cette capacité à trouver des nouveaux engagements durant la retraite qui vont faire que la retraite va se passer peut-être de manière plus douce.
Je vous vois acquiescer, Michel Guillemin.
Oui, tout à fait.
Spécialiste de santé au travail, santé à la retraite, c'est aussi quelque chose qui vous parle.
Oui, je pense que c'est important parce que il faut donner du sens à sa vie et effectivement la remplir à la retraite avec des voyages, la plage et tout ça, c'est clair que ça va un moment, mais ça remplit pas la vie. Donc ça n'a pas trop de sens. Et ce que disait Madame Rizer, c'est tout à fait juste. Il faut que les gens ils se sentent utiles. Alors bon, il y a beaucoup de gens à la retraite qui sont grands-parents, alors ils se sentent utiles en gardant les petits-enfants. C'est un rôle que je comprends tout à fait, parce que là, vraiment, ils se sentent utiles. Mais il y a tellement d'autres manières, et Madame Rizer l'a bien dit, d'autres manières de se sentir utile. Et je pense que c'est ça qui est important, quoi.
Mais paradoxalement, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ce besoin de remplir sa vie avec des activités, aussi une forme de pression sociale? Aujourd'hui, le retraité doit être actif, il doit... fournir voilà, des prestations, du bénévolat, garder les petits-enfants, etc. Est-ce qu'un retraité qui aimerait juste être en vacances, est-ce qu'il peut encore le faire, a le droit de le faire? Est-ce qu'on ne vit pas une autre forme de pression sociale, Michel Guimin?
Oui, ça c'est possible. Mais je pense que le retraité a quand même pas mal de liberté. Alors après, est-ce qu'il va être, sensible à cette pression sociale? C'est possible. Et puis le retraité aussi, je pense que la dame dont on a entendu le témoignage avant, qui avait 300 personnes avec elle, elle a perdu un statut social qui est important. Et donc, c'est une manière de retrouver après ça, de prendre d'autres responsabilités. Et je pense que c'est quand même assez subtil de savoir si cette pression sociale, c'est plus fort que ce goût des vacances. Mais comme on le disait avant, le goût des vacances, c'est bien un moment, mais ça peut pas durer.
Sur cette question, Valérie Anne Rizer, sur cette question de vouloir restructurer sa vie en y mettant un certain nombre de choses, finalement en restructurant sa vieillesse ou sa retraite, comme on avait structuré son temps de travail, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme de pression sociale?
Oui, peut-être. Mais oui, avec cette injonction du vieillissement actif. Simplement, moi, je pense que, comme le disait Monsieur Guimiomain, il y a plusieurs manières d'être retraité. Alors effectivement, il y a une publicité qui montre vraiment des aînés qui sont extrêmement en forme. Mais je crois que par ailleurs, on peut très bien vivre en ayant un rythme peut-être moins soutenu que ce que nous disait une auditrice en début d'émission. Elle disait voilà, quand j'étais quand je travaillais, je n'avais pas une minute. Maintenant, j'ai pas une seconde.
Effectivement, on l'entend beaucoup de retraités le disent.
Oui, moi j'ai des retraités qui me disaient moi maintenant j'ai un agenda. Quand je travaillais, j'en avais pas besoin d'un agenda. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de liberté et puis je pense qu'ils ont tout à fait les ressources pour prendre cette liberté et puis dire stop à certains moments. Moi, j'entends des gens qui me disaient « j'ai pris deux retraites », c'est-à-dire j'ai pris une première retraite de mon travail, j'ai continué des activités bénévoles et puis après j'ai décidé à un certain âge que je prenais une seconde retraite et que finalement je rediminuais encore mes activités de bénévolat. Donc en fait, je pense qu'il y a des étapes.
Plusieurs retraites
voilà,
après
plusieurs
le travail.
Plusieurs types de retraites.
Intéressant.
Et je pense que finalement, les aînés que j'ai pu rencontrer arrivaient assez bien à gérer cette injonction du vieillissement actif, justement en l'adaptant à leur vécu personnel.
Alors peut-être qu'on comprend les difficultés, on va dire, que l'on rencontre quand on a quitté un métier valorisant, parce qu'on perd des responsabilités, peut-être certains sens à la vie que donnait son travail. Mais quand on quitte un travail pénible, j'imagine que dans votre panel que vous avez étudié, Valérie Anne Rizer, il n'y avait pas que des métiers appréciés et valorisants. Est-ce que le sentiment de vide est identique? Ou est-ce qu'il est un peu atténué justement par le bonheur que c'est de se reposer après un travail pénible?
Voilà, alors bon, s'il y a des gens qui ont aussi un travail pénible, si on commence, c'est aussi des gens qui ont eu des emplois dans lesquels ce que vous avez mentionné, Monsieur Guimin, on ne leur a pas permis vraiment d'anticiper la transition à la retraite. Donc c'est des gens qui ont eu un travail très pénible, on les a focalisés sur ce qu'ils devaient construire, ce qu'ils devaient faire. Je pense par exemple aux travailleurs du bâtiment, où on a valorisé le fait qu'ils allaient contribuer à l'édification d'un beau bâtiment, à la rénovation d'une gare, enfin des bâtiments qui sont de notoriété publique, beaux, reconnus, etc. Donc on a valorisé vraiment beaucoup le faire, mais on les a peu sensibilisés au fait qu'il y a un jour où le travail allait s'arrêter et qu'il devrait se restructurer, arriver à la retraite. Et donc, du coup, c'est des gens qui arrivent à la retraite, parfois aussi avec des retraites anticipées, parce que c'est des gens qui, en raison de la pénibilité de leur travail, ont eu des atteintes à la santé physique. Donc, se retrouvent avec des retraites anticipées qu'ils n'avaient pas forcément anticipées. Mmh. Et donc, du coup, ils peuvent aussi se retrouver démunis par rapport à une retraite anticipée et par rapport aussi au fait que durant toute leur vie professionnelle, on a valorisé, je sais pas moi, le travail bien fait quand même, on a valorisé le fait que ils étaient ponctuels, qu'ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient, etc. Et tout à coup, il n'y a plus cette valorisation-là, il n'y a plus cet entourage social.
Et ils peuvent ressentir ce vide dont on parlait, dont on aurait pu imaginer qu'ils étaient à l'abri duquel ils auraient dû être, voilà. Puisqu'ils quittaient un métier pénible, Michel Guimin.
Oui, je pense qu'il y a une autre chose aussi chez ces gens-là, c'est l'équipe qui va leur manquer. Parce que c'est, dans les métiers pénibles, on est encore beaucoup plus solidaire dans l'équipe. Et ils perdent aussi ça. Donc une partie du manque, c'est aussi le manque de l'équipe, les contacts qu'ils ont eu avec leurs collègues, qui étaient très précieux et qu'ils ont perdu aussi.
On va parler justement de pénibilité et de retraite anticipée. Peut-être une petite définition, s'il en existe une, Michel Guimin. Qu'est-ce qu'un métier pénible ? On parle souvent, pénibilité, est-ce que c'est que les travailleurs du bâtiment ou qu'est-ce que vous rangez sous cette étiquette ?
Bon, c'est vrai que j'ai pas trop lu, je sais qu'en France il y a un grand débat parce qu'ils veulent faire, je sais pas où ça en est, la législation en France sur la pénibilité, mais ils veulent introduire une mesure de la pénibilité pour savoir si on doit mettre les gens à la retraite plus tôt ou pas.
Mais débat en France, en Suisse aussi, on l'amorcerait ce débat ?
En Suisse, on est assez timide sur ce qui concerne la santé au travail. On va peut-être pas entrer dans ce débat parce que là, vous m'arrêtez plus. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que la pénibilité, pour l'instant, elle s'est concentrée sur une pénibilité physique, alors que la pénibilité psychique, elle est énorme. Et là, elle est encore plus difficile à mesurer. Et je crois que c'est un débat qui fait peur à tout le monde, et en particulier aux politiciens.
Alors, des personnes qui ont vécu un métier pénible, je le disais tout à l'heure, métier du bâtiment, ces travailleurs-là ont obtenu une retraite anticipée. On va en parler. Ce sera juste après Souchon et Voulzy, 71 ans, 67 ans, et toujours pas à la retraite, ni l'un ni l'autre.
La Suisse est née d'un besoin de sécurité collective, de la nécessité de s'aider les uns les autres. Il importe aujourd'hui de maintenir cet esprit de solidarité qui lie les uns aux autres tous les citoyens d'un pays libre, grands et petits, jeunes et vieux.
Cette question de l'assurance vieillesse n'est pas qu'une question académique. C'est une question vivante, autant que vitale pour notre peuple, une question de raison, autant qu'une question de sentiment.
Nous voulons assurer leur vieillesse, car eux ont assuré notre jeunesse.
Regardez la mer, restez la journée ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis, regardez la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer, restez, restez sur le mur de pierre, là où le soleil. Restez, restez, tout seul, solitaire, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, restez la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, ne pas avoir d'autre envie que regardez la mer, laissez le temps s'en aller là, laissez aller les voiles rouges sur la mer qui bouge, laissez sur l'eau transparente glisser les soucis de la vie, glisser les jolies sirènes aussi dans la baie des fourmis.
Et les gens, il y a une fête à Saint-Jean, et moi je reste là à
regarder la mer, rester la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis, regarder la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Avoir d'autres envies. regarder la mer.
Vous voyez, là, il y a des piliers, c'est moi qui je l'ai monté. Hein.
Les colonnes, là, les piliers colonnes, qu'on oui, a sous
colonnes,
les yeux.
Ces colonnes que vous voyez là, c'est moi qui je l'ai monté.
Je sens une certaine fierté
oui,
dans
non,
votre voix.
C'est vrai que j'ai du plaisir quand je vois des choses que, un jour que je ne serai plus, mais il restera quelque chose pour quelqu'un. Voilà, comme moi, ça rend service à quelqu'un. Je sais que les travaux ont été bien faits. Hein. Il y a quelque chose qui reste.
Hey,
ciao. Ça, c'est un autre qui travaillait sur le chantier aussi. On n'a pas travaillé ensemble, mais on se connaît par voie de sport. La santé, ça va meilleur maintenant.
Ça peut être mieux.
Ton dos.
Toujours le problème, ça.
Toujours le même problème. Hein.
Ouais. Ça ne s'arrange pas, ça.
Vous étiez maçon aussi, vous, monsieur?
Oui.
T'as pris aussi la retraite anticipée, non?
Oui, oui.
Ouais.
Monsieur Leconte vous a demandé des nouvelles de votre dos. Il a quoi, votre dos?
J'ai des vertèbres tassées. C'est à longtemps que je souffre de ça.
Vous avez commencé à souffrir à partir de quel âge?
Ben, ça a commencé à donner des problèmes depuis la quarantaine. Et puis, ça a toujours empiré. Et ça ne marche pas. Maintenant, on a pris du poids, c'est encore pire.
Mais ça, le dos, vous attribuez ça à votre profession, le mal de dos?
Oui, la profession, oui. Voilà pourquoi j'ai utilisé certaines machines qui étaient mortelles pour le dos.
Mais ça participe au fait que dans votre profession, c'est important de pouvoir arrêter à 60 ans?
Autrement, il n'arrive pas beaucoup de monde à toucher la retraite. Dans la construction, il n'y a pas des gens qui arrivent à 80, 85, 90.
Hein. Les gens, ils meurent avant?
Ah oui.
Isabelle Probst, donc là on s'est beaucoup axé sur les ouvriers de la construction, sur cette retraite anticipée qui pour eux est une compensation. Mais il y a d'autres professions manuelles qui ont aussi une espérance de vie réduite et des risques de terminer une carrière à la haie ou en tout cas en mauvaise santé.
Oui. Par exemple, il y a une étude réalisée récemment en France qui est intéressante parce que elle prend en compte non seulement les hommes, comme c'était le cas dans l'étude qui a été réalisée à Genève sur mortalité et invalidité.
Donc sur une période de 20 ans, de 1970 à 1990, plus de 5000 hommes dans plein de professions différentes, voilà. Professions intellectuelles jusqu'à professions manuelles. Mais effectivement, il n'y avait que des professions masculines.
Que des hommes, oui. Et dans cette enquête, on voyait que les nettoyeurs, concierges, éboueurs, et puis aussi les ouvriers d'usines non qualifiés présentaient aussi vraiment un risque accru, énormément accru, d'invalidité et de mortalité par rapport à des professions
architectes,
libérales, et puis par rapport aux employés en général. Et cette retraite anticipée, disons, elle n'est pas arrivée sur la base des études scientifiques uniquement. C'est vraiment quelque chose qui a été acquis par les maçons parce que pour eux c'était une revendication centrale et qu'ils sont mobilisés pour l'obtenir. Mais du point de vue de la santé publique, c'est pas la seule profession pour laquelle ça se justifierait.
Voilà, c'était Isabelle Probst, professeure à la Haute École de Santé Vaud, qui a travaillé sur les conséquences des intempéries sur la santé des travailleurs du secteur principal de la construction. Et puis, juste avant elle, Antonio Leconte, maçon à la retraite. Et quand il travaillait, il a contribué, on l'a compris, à construire un centre commercial. En l'occurrence, c'était Planète Charmy. Tous les deux étaient au micro de Muriel Mera. Nous sommes toujours dans les Échos de Vacarme avec Valérie-Anne Rizer, docteur en sciences sociales, et Michel Guillemin, professeur émérite de l'Université de Lausanne, spécialiste de santé au travail. La retraite à 60 ans, c'est donc une disposition qui existe depuis 12 ans qui a été obtenue de haute lutte par les syndicats pour les travailleurs du bâtiment. Est-ce que c'était le bon âge, 60 ans, à votre avis?
Ah, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui était très intéressant, c'est que, d'une part, ça justifie les études scientifiques. Parce que là, on a ce qu'on appelle l'évidence, les evidence-based, comme ils disent en médecine. Et c'est ces évidences qui ont permis, après, aux syndicats de partir en guerre pour avoir une retraite anticipée. Mais c'était intéressant, d'une part, parce que le patronat a traîné véritablement dans la boue les chercheurs qui ont fait cette étude. Et ça, je m'en souviens très bien. Et c'était très cruel de voir des critiques totalement infondées, simplement parce qu'ils avaient peur de devoir accéder à cette demande de la retraite anticipée. Et puis ensuite, heureusement, les syndicats ont joué leur rôle et ont obtenu ça, mais ils ne l'auraient pas obtenu s'il n'y avait pas eu ces chiffres. Parce que ça, c'était des chiffres qui étaient vraiment suisses romands. Parce que souvent, nous, on sort des chiffres des autres pays, puis on dit, mais regardez ce qui se passe là-bas. On dit, ah oui, mais ça, c'est pas en Suisse. Alors en Suisse, c'est pas la même chose. Donc on peut pas se baser sur ces chiffres-là. Tandis que là, on pouvait pas dire que c'était des chiffres étrangers, quoi.
En vous posant la question de l'âge, vous me voyez venir, évidemment, c'est de vous poser d'une façon générale. Est-ce qu'il est possible, souhaitable, de fixer une limite au-delà de laquelle on ne va plus travailler? On sent deux mouvements contraires entre abaissement d'un côté pour les métiers pénibles et élèvement de l'âge de la retraite pour pouvoir financer notre AVS. Est-ce qu'il y a un âge idéal pour partir en retraite, Valérie Anne Rizer?
Alors je ne pense pas que non, qu'il y ait un âge idéal pour partir à la retraite. Comme on l'a entendu, ben, il y a des gens qui ont des problèmes de santé ben, très tôt finalement dans leur parcours de vie liés à des professions qui sont très très dures. Donc pour ces gens-là, effectivement, ben, une retraite anticipée, c'est quelque chose qui vient de l'ordre du vital, du nécessaire, hein, parce que sinon, je sais pas, ils vont mourir au travail. Par ailleurs, pour d'autres professions, c'est vrai que c'est difficile d'arrêter de travailler parce que il y a encore une santé physique, une santé psychique qui est vraiment très très bonne, et un amour du travail, une possibilité de travailler qui est là. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de professions pour lesquelles il y a des gens qui souhaitent continuer de travailler, pas parce qu'ils en ont besoin financièrement, mais parce qu'ils les structures finalement au niveau structurel dans leur profession, c'est possible de continuer à travailler. Donc il faudrait peut-être plus de flexibilité au niveau de cet âge de la retraite.
On l'a appris durant la semaine en écoutant les reportages de Muriel Merac, où on nous l'a rappelé durant la semaine que l'introduction de l'AVS en 1948 prévoyait une retraite pour tous à 65 ans, et petit à petit, au fil des révisions, on a abaissé l'âge de la retraite pour les femmes. Maintenant, on est en train de le réaugmenter. Puis le prochain projet du Conseil fédéral prévoit une retraite à 65 ans pour tous. Donc, on revient aux dispositions de 1948. Michel Guillemin, vous, quel serait votre idéal? Évidemment, c'est difficile de dire un âge, mais quand Valériane Rizer parle de flexibilité, comment est-ce que vous entendez ça et comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça?
Ah, mais complètement sur la même longueur d'onde, parce que moi, je serais pour une retraite à la carte, si c'est possible. Après, par rapport aux chiffres qu'il faut atteindre pour pouvoir garantir ces retraites, ça, je ne sais pas. Je suis pas un spécialiste de ça. Mais je pense que c'est quand même dommage que pour des gens qui ont envie de travailler et qui sont capables de faire très bien, qu'on les empêche simplement parce qu'il y a une limite à ne pas dépasser. Mais il est aussi justifié, je pense, d'avoir des retraites qui arrive assez tôt, parce que les métiers pénibles. Et puis on parle des femmes. Souvent les femmes, elles ont deux travaux. Elles ont le travail professionnel, puis le travail à la maison qui se rajoute. Et je trouve tout à fait justifié que les femmes partent à la retraite plus tôt. Mais ça, c'est mon avis personnel.
Ou alors qu'on rééquilibre le partage des tâches à la maison, qui peut être une autre solution aussi.
Tout à fait aussi, bien sûr. Mais jusqu'à présent, ça a quand même été un des arguments pour dire que la femme devait prendre la retraite plus tôt.
Mm-hmm. Hommes, femmes, pas égaux devant la retraite, Valérie Anne Rizer.
Alors effectivement, on a un système d'AVS qui est profondément inégalitaire, dans ce sens que ce système est basé sur finalement une structure assez linéaire. Donc il y a la forme, il y a l'enfance, il y a la formation, il y a le plein emploi et après il y a la retraite. Donc
on considère ça comme la norme.
Voilà, c'est une trajectoire normale, standard. Et cette trajectoire normale, standard, beaucoup d'études montrent que elle existe quand même de moins en moins. De plus en plus d'individus, hommes ou femmes, ont des ruptures dans leur trajectoire, travaillent à temps partiel. Et donc, du coup, au moment où il y a des gens qui ont des ruptures, qui travaillent à temps partiel, leur cotisation qui va être accumulée durant la vie active vont différer. Et donc, du coup, les gens qui ont eu des ruptures, qui ont travaillé à temps partiel, vont se trouver finalement pénalisés au moment de l'entrée de la retraite.
Ce que vous voulez dire par là, c'est que le modèle est centré sur un modèle masculin, disons-le.
Oui, voilà. Et c'est vrai que ces assurances sociales ne considèrent pas sur le même plan l'emploi que le travail domestique. Et donc, du coup, c'est vrai que ça pénalise beaucoup les femmes, parce que comme vous l'avez souligné, les femmes aussi, souvent, beaucoup d'études le montrent, arrêtent de travailler avec l'arrivée des enfants ou diminuent leur temps de travail. Et donc, elles vont se retrouver pénalisées avec l'arrivée à la retraite. Et du coup, ça va aussi, avec l'arrivée de la retraite, elles auront une baisse de capital. Et donc, du coup, c'est une grande inégalité. Par ailleurs, il y a aussi la possibilité d'avoir une prévoyance privée, donc d'avoir un capital supplémentaire. Mais encore une fois, qui sont les gens qui peuvent s'offrir ce capital supplémentaire? C'est qu'une petite tranche de la population, donc les personnes...
Ceux qui gagnent suffisamment.
Voilà. Donc ça veut dire que les personnes sous-qualifiées ou avec peu de qualifications, peu de certifications, finalement, ne vont pas pouvoir avoir un capital supplémentaire.
Alors en revanche, où hommes et femmes sont peut-être égaux, en tout cas à en croire le message d'une de nos auditrices, c'est devant la difficulté à retrouver du travail après 55 ans, ce qui pose aussi la question du recul de l'âge de la retraite. Michel Guimin.
Oui, c'est vrai, parce que les personnes qui veulent travailler et qu'on encouragerait peut-être à travailler, on leur donne pas de possibilité de le faire. Il y a quand même, c'est vrai que c'est un paradoxe et que les entreprises ne jouent pas le jeu, je trouve, parce que souvent les entreprises, elles préfèrent engager des jeunes, ils coûtent moins cher, et puis on dit que les vieux, voilà, ils coûtent cher, et puis ça sera une charge supplémentaire pour l'entreprise. Donc il y a un double langage quelque part. Prolonger l'âge de la retraite à plus tard et puis ne pas engager les gens qui auraient envie de le faire à cet âge-là.
Je vous propose que l'on retrouve quelqu'un qui ne s'est pas trop préoccupé de la date limite pour son travail et qui a continué de travailler bien au-delà de l'âge officiel de la retraite. Il s'appelle Vincenzo Garofalo, coiffeur pour hommes à Auchy. Il a travaillé depuis l'âge de 11 ans où il a commencé en Sicile jusqu'à l'âge de 76 ans, 65 ans de travail. Qui dit mieux. Le 20 juin dernier, c'était son tout dernier jour de travail.
Je trouve que le métier de coiffeur, c'est un très beau métier. Si on fait avec passion, avec plaisir, hein, c'est un très beau métier.
Et vous, la passion, elle vous a jamais quitté depuis que vous avez commencé?
Non, et j'ai commencé par hasard, vous savez. Mon père, il était à se faire la barbe. Hein. Et nous, étions trois garçons, mon coiffeur dit, il n'y a pas un qui veut faire coiffeur. Comme moi, j'étais plus délicat en disant, mais tu ne veux pas faire coiffeur? Je dis, pourquoi pas? On peut aller à l'école juste à 5e au village.
Quand vous étiez enfant, on arrêtait l'école en 5e?
À 11 ans, 5e, oui. Parce que qui avait les moyens, il pouvait aller en ville pour faire des études, mais on devait rester comme pensionnaire. Hein. La ville la plus proche, c'était à 30-40 km. Hein. Ce temps-là, c'était moyen de transport, c'était pas facile. Hein. Alors, c'était ou le métier ou à la campagne.
Dans les champs, vous voulez dire?
Dans les champs, oui. Ce que vous voulez, là, c'était 4-5 métiers qu'on peut apprendre, coiffeur, cordonnier, tailleur, maçon, ébaniste, et s'arrêter là. Il n'y avait rien d'autre. J'ai pris quoi faire, c'est venu comme ça, j'ai pris passion, et voilà. Et ça fait 65 ans bientôt que j'ai commencé. Et au mois d'août, ça va faire 65 ans.
Et donc à l'époque, c'était normal, en tout cas en Sicile, de commencer à travailler à 11 ans, 11 ans et demi.
Oh oui. C'était plutôt aller voir, hein, parce qu'on apprenait le métier sur le tas, comme ça, en regardant, en faisant, petit à petit, va. Et après, à 16 ans, non, à 16 ans, j'étais en ville, c'est devenu plus sérieux. Hein.
À 16 ans, vous avez fait un vrai apprentissage.
Un vrai apprentissage en ville, j'ai fait 3 ans et demi, la même place. Et après, je suis venu en Suisse.
Mais pour en revenir, quand vous aviez 11 ans, 11 ans et demi, donc là, c'était un village en Sicile dans les années 50, du coup, c'est ça,
hein? Oui, c'était les années 50, c'était après la guerre, oui, c'était pas aussi facile. Hein. Les gens qui venaient de la guerre, il y avait la misère, vraiment. Qu'est-ce qu'on voit en Afrique à présent, on le voyait en Sicile aussi. Hein, c'était... Il y avait des gens aisés, mais il y avait la majorité des gens, c'était des ouvriers. Ils survivaient. Hein. Mes parents, ils travaillaient beaucoup à la campagne, comme beaucoup d'autres, pour survivre, rien de plus.
C'est
mieux. Hein.
Ça
te plaît? Voilà.
D'une génération à l'autre.
C'est un peu le travail à la chaîne, hein, aujourd'hui, chez vous.
Oui, 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 oui. Mais ils sont gentils. Ils sont gentils, vraiment. Je ne peux pas dire non. Vraiment, des messieurs comme ça qui me respectent, je ne peux pas faire autrement.
On peut tout faire à la tondeuse. Vincenzo, on fait tout à la tondeuse aujourd'hui. Ouais, non, vous voulez pas? Ah ouais, ouais, ouais. Allez. Je vais dire une chose parce que j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un d'autre que chez Vincenzo.
C'est très gentil, mais il y a des beaux coiffeurs à faire partout.
Et ouais, mais ça sera dur. Son coiffeur, c'est un peu comme son confesseur. C'est encore peut-être un des seuls lieux où, dans notre société moderne, il y a un contact entre l'artisan et le client, quoi. Et puis Vincenzo, ben, il a capté, je dirais, une sagesse auprès de toutes les âmes qui sont venues ici. Et c'est incroyable. Donc il y a quelque chose qui règne là, dans ces quatre murs. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans les très très vieilles églises, vous savez pas comment, c'est chargé, vous savez pas pourquoi, etc. Ben ici, c'est chargé. Vincenzo, c'est un maître dans son art. Il s'est réalisé dans son art.
C'est trop avec moi. Hein.
Ah non,
voilà.
C'est parfait.
Voilà.
Ouais. S'il y a un paradis au ciel, vous y allez tout droit, Vincenzo.
Moi, j'espère avoir un peu quelques années encore ici. Après ça.
Prends sa retraite, il ne meurt pas. Hein.
10 ans, au moins. J'aimerais.
Alors voilà. Je remercie le ciel qui nous ait donné ainsi grand barbier et coiffeur. Il a incarné sa profession. Quoi. Il l'a incarné. Voilà. Ouais, c'est beau, ça.
C'est fini.
Sicilia bella, Sicilia mia, ti penso sempre con nostalgia, e qualche giorno Sicilia mia, vegni un di dia fino un batteri.
Vincenzo Garofalo, coiffeur pour homme, retraité, jeune retraité de 76 ans, après 65 ans de travail. Alors, à travers son témoignage assez exceptionnel, peu se reconnaîtront dans ce parcours-là, mais c'est quand même l'histoire d'un rapport au travail qui se dessine. Il a choisi sa profession parmi, dit-il, 4 ou 5 qui étaient disponibles. Aujourd'hui, les jeunes ont
très souvent la possibilité de choisir parmi une panoplie de métiers beaucoup plus large et, semble-t-il, ne souhaitent pas investir autant de temps. Si j'en crois une enquête parue en 2014, 58% des jeunes interrogés ont pour premier objectif de carrière l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Voilà, le travail n'est plus forcément au centre aujourd'hui, en tout cas pour un certain nombre de personnes. Est-ce que ça veut dire aussi que ces nouveaux travailleurs deviennent de nouveaux retraités, si je puis dire, Michel Guillemin? On attendra plus de sa retraite parce qu'on a moins attendu de son travail.
C'est possible. Ce sont des gens qui ont considéré les valeurs dans leur vie et les valeurs de la vie privée sont importantes aussi. Et je trouve c'est pas mal cette réflexion sur les valeurs, qu'on peut aussi évoluer, se réaliser par le travail, mais aussi par la vie privée et par les autres choses qu'on a envie de faire. Et je comprends très bien les jeunes qui maintenant ont quand même beaucoup plus de souplesse. Et puis, comme vous le disiez, plein d'occasions possibles et eux, ils n'hésitent pas à changer de métier rapidement, de faire cette réflexion puisqu'ils veulent que leur vie ait du sens et la vie peut avoir du sens par le travail et aussi par d'autres activités. Je trouve que c'est une évolution relativement saine. Ce qui est important, c'est de se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de se poser des questions, ils ont le nez dans le guidon puis quand ils arrivent à la retraite, ça c'est le choc. C'est ce qu'on a entendu.
Et ce sens pourrait être gardé justement durant son temps de retraite. Une autre façon peut-être de donner du sens au moment de sa retraite serait de plus favoriser la transmission de ses connaissances. On entend peu ce genre de choses de la part des retraités qui continueraient non pas à travailler mais à transmettre leurs connaissances. Valériane Rizer.
Alors effectivement, si on avait cette possibilité de transmission des connaissances entre différentes générations, ça permettrait d'abord une transition à la retraite un peu plus douce parce que finalement, ça permettrait au sein de l'entreprise, au sein de la profession, d'intégrer le fait qu'on va partir à la retraite parce qu'on est en train de transmettre ses compétences, ses connaissances, ses valeurs professionnelles, ses valeurs d'entreprise à une nouvelle génération.
Pourquoi ça ne se fait pas plus ça?
Alors, je ne peux pas vous répondre.
Michel Guillemin, vous avez
une idée?
Oui,
moi, je crois que c'est une question de culture. Nous, on a décidé que les vieux, c'était des pauvres gens qu'on va pas dans des établissements spécialisés et puis qui peuvent servir plus à rien du tout. Et je trouve que ça, c'est extrêmement choquant. Et les cultures asiatiques sont totalement contraires à ça. Les cultures asiatiques, déjà, il y a beaucoup moins de maisons pour les personnes âgées parce qu'elles restent dans la famille jusqu'à la fin. Et les personnes âgées sont considérées comme des sages. Ici, c'est la notion de sage, celui qui sait, celui qui a l'expérience et qui va la transmettre, ça n'existe pas vraiment. Et moi je trouve que c'est dommage parce que cette sagesse des gens qui ont de l'expérience, c'est extrêmement précieux. Et cette transmission des connaissances et des valeurs, je reviens toujours à ce mot parce qu'il est capital, c'est ces personnes-là qui peuvent le donner avec leur expérience et ils sont légitimes pour ça.
Changer la culture pour changer le regard qu'on a sur la retraite et la vieillesse. Valérie,
ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que finalement, les personnes âgées, en s'engageant dans des activités bénévoles, parce que finalement, la retraite, on peut dire que c'est un temps privilégié aussi pour participer un petit peu à des activités d'utilité publique. Finalement, des personnes qui ont acquis des compétences dans leur milieu professionnel vont faire bénéficier des organisations, des fondations de leurs compétences. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup de transmission de compétences, même si ce n'est pas socialement valorisé, comme vous l'avez souligné. Mais je pense qu'au sein justement des organisations, vous avez souvent des retraités qui ont quand même des rôles clés. Parce que justement durant toute leur vie professionnelle ils ont acquis des connaissances et du coup c'est des fondations à titre bénévole comme ça qui peuvent bénéficier de ces connaissances là et là moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses très positives qui se font
et ça donne du sens et pas forcément du travail
et un sentiment d'utilité aussi.
Retraite, ce mot-là, retraite.
Pour moi, il est terrible.
Parce que retraite, ça renvoie déjà à l'éducation religieuse de base. Donc la retraite, oh mon ami, il serait peut-être temps pour que tu comprennes la vie que tu ailles faire une bonne retraite chez tel moine perdu qui va vous masser le crâne en vous expliquant que le monde est ainsi fait. Bon, les retraites, très peu pour moi. Ensuite, quand la mer se retire, bon, ça libère les coquillages, mais il faut marcher plus pour aller se baigner. C'est pas drôle. C'est le coït interrompu, la retraite. Retraite, c'est Waterloo. Retraite, c'est quoi encore? Une retraite. Et puis retraite, ça signifie... On vous a retiré. Bah non, retraite, c'est pas... Le mot n'est pas rigolo.
You know I worked so hard to pay my dues. Now I'm gonna make the most of my life. I'm little used. Have good time even if I'm not as young as I was. You know I worked so hard to pay my dues. Now I'm gonna make the most of my life. Have good time even if I'm not as young as I was. First drop some weight, sweat at the gym, no more frustrations, put a smile on my face. Find a young mistress, my wife left with her boss, said I'm a loser, but I don't get it. Bam, 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 the trips I read about. You know I always dream to go down south, find a place in the sun where life can be monotone and go on. Bam, 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 bam. You know I worked so hard to pay my dues. Now I'm gonna make the most of my life. Have good time even if I'm not as young as I was. First drop some ice without a gym. No more frustrations, put a smile on my face. Find a young mistress, my wife left with her boss. Said I'm a loser, but I don't care. But da-da-da, do the trick I read about. You know I always dream to go down south, find a place in the sun where life can be monotone and go on. Bam 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 bam.
I've worked so hard, c'était Andrzej Bakleda sur la première. Les échos de Vacarme, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Anne Rizer d'être venue ce matin et vous Michel Guillemin. Je rappelle que vous êtes, vous, Madame Rizer, docteur en sciences sociales, affiliée au Centre de compétences suisses en sciences sociales, hébergée par l'Université de Lausanne. Et Michel Guillemin, vous êtes professeur émérite de l'Université de Lausanne également et spécialiste de la santé au travail. Merci également à ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Il y avait Muriel Mera, Bruno Seriba, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Stéphanie Jovanovic, Dani Sulam, Marc Frochot et Dominique Stalder. Ne manquez pas Faut pas croire sur RTS 1, c'est à 12h05. Faut-il réhabiliter la bienveillance et peut-être même la gentillesse dans le monde de l'entreprise? Je vois que ça vous parle, Michel Guillemin.
Oui.
C'est un peu votre credo à vous aussi.
Exactement.
Et RTS.ch/travail, eh bien c'est le site consacré à cette semaine spéciale travail. sur la RTS. Nous, on se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle semaine de reportage consacrée au pouvoir des femmes. Dans le monde de l'entreprise aussi, il en sera question d'ailleurs. Quand les femmes prennent le pouvoir, une série de Valérie Kernan à suivre toute la semaine dans Vacarme. Après les informations, ce sera Travelling, l'émission cinéma de Catherine Fadbert. Aujourd'hui, le film décortiqué par ses soins, c'est Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, 1953, avec Charles Vanel et Yves Montand. Très belle journée, il est tout juste 10h sur la première.